C'est toujours difficile de savoir avec quoi commencer. Pour les personnes qui n'ont jamais médité. Ce soir, je vous propose de commencer avec le premier enseignement que le Bouddha a donné après ce qu'on appelle son illumination. Quand le Bouddha a découvert ce qu'il a découvert, d'abord il n'a pas voulu enseigner parce qu'il s'est dit « personne ne va me croire ». Et puis, grâce à l'intervention de Brahma, il est dit dans les textes, le Bouddha a accepté de partager ce qu'il avait découvert. Et l'enseignement de base, c'est ce qu'on appelle les quatre vérités nobles. Et ces quatre vérités nobles sont extrêmement complètes. En réalisant dans le corps et dans l'esprit ce que le Bouddha a partagé là, nous pouvons réaliser l'inébranlable paix du cœur. Le Bouddha a découvert ces quatre vérités après avoir pratiqué des austérités incroyable. Il était sur le point de mourir et sa quête n'avait pas abouti. Il n'avait pas pu réaliser la fin de la souffrance. C'était sa quête. Et à un moment donné, il a accepté de manger du riz. Une femme lui a apporté un bol de riz. Il a accepté de manger. Son corps est redevenu un peu plus fort. Et puis il s'est assis à Bodh Gaya sous l'arbre, ce qu'on appelle le Bodhi Tree. Et il s'est souvenu d'un moment dans le jardin de son père était roi, où il n'y avait pas grand-chose. Il était sous un arbre, tranquille, c'était simple. Et il s'est posé la question à ce moment-là, quelle était l'expérience? Et il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun désir pour quoi que ce soit, que l'instant était assez tel qu'il était et que ça ne voulait pas dire qu'il était exceptionnel. Il était juste assez. Et c'est à partir de là qu'avec son regard pénétrant, il a pu partager ses quatre vérités nobles. Et la première, c'est que le réel de l'expérience humaine est souffrance. La première vérité, c'est que la vie est souffrance. Alors vous allez me dire, oh là là, ça c'est vraiment pas drôle. C'est vrai, c'est pas très drôle. Il faut le comprendre de trois manières. D'abord, c'est vrai que la vie peut vraiment être souffrance. Il peut y avoir de la peine dans l'instant. La peine liée à la naissance, à la maladie, à la vieillesse, à la mort, au corps qui souffre. La peine liée au chagrin, parce que nous perdons ce ou ceux que nous aimons, ou parce que nous sommes simplement séparés de ceux et de ceux que nous aimons. La peine liée au fait que les choses changent. Et que la nature humaine est vulnérable. Et que nous ne pouvons rien faire pour éviter ça. Et le troisième aspect, c'est que même si l'expérience est extraordinaire, nous pouvons supporter quelque chose de très bénéfique pendant un certain temps, et puis ça ne nous suffit plus. Il y a comme un manque inhérent à la nature humaine. Lorsque nous naissons dans un monde de dualité, et quelque chose fait que c'est pas mal ce que je vis, même si c'est bien, c'est pas mal. Mais, et même si vous viviez avec l'homme de votre vie, dans l'île la plus merveilleuse, avec de l'eau bonne chaude, des fruits extraordinaires, vous seriez heureux combien de temps? Une semaine? 10 jours? 2 semaines? 3 semaines? Puis après, et puis maintenant. Nous avons besoin de changement. Il y a quelque chose qui fait que la nature humaine est insatisfaisante. Que nous avons besoin de bouger. C'est une forme de souffrance. Dans notre monde, il y a un immense déni de cette première vérité. Je me souviens que quand je l'avais entendue pour la première fois, j'étais terriblement soulagée. Ah, chic. J'ai pas besoin d'être heureuse puisque de toute façon je peux pas vraiment l'être. Et c'est vrai que la manière que nous avons dans notre monde de prétendre que le monde conditionné peut nous apporter le bonheur, si nous gagnons assez, si les autres nous valorisent assez, si nous réussissons tout ce que nous entreprenons, si nous ne vivons que dans un monde de plaisir. Combien de millions sont dépensés maintenant que la médecine a fait des progrès pour se faire retirer la peau? C'est assez hallucinant. Hein? Il y a une forme de déni de l'impermanence, de déni vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du fait que nous pouvons manquer, qui est peut-être le drame de notre société aujourd'hui, parce que ça implique une fuite en avant, où nous voulons acquérir encore et encore, et pour aller où ? On est en train de détruire absolument tout avec cette avidité. Le risque zéro, les assurances, les surassurés. Alors nous avons beaucoup de chance chez nous, d'une certaine manière. Pourtant, d'habitude, je dis que la Suisse est le pays au monde où il y a le plus fort taux de suicide. Quelqu'un est venu me dire lundi que ce n'était pas la Suisse qui avait les pays de l'Est où il y avait encore un plus fort taux de suicide. Oh, c'est pas la Suisse. Mais toujours est-il qu'on a beau être des nantis, ça ne veut pas dire que nous sommes heureux. Et quelquefois, quand nous voyons les sourires des personnes qui vivent dans des slums, dans des bidonvilles, on a l'impression que leur cœur est unifié que le nôtre. Dans la méditation, lorsque nous commençons à pratiquer cette réalité de la souffrance dans le vipassana, quand je vois les choses clairement, je peux vraiment voir que la souffrance existe. Et que quand j'arrête d'ouvrir le frigo, de téléphoner à des copains, d'aller voir un film, d'aller me balader, de chacun a sa manière de faire, de prendre le téléphone, et que je suis simplement là avec moi-même, assise, à ne rien faire. Quelle est l'expérience ? Et ce que nous voyons, c'est que le corps est vite tendu, que la pensée est très sauvage, il n'y a aucune maîtrise du processus conceptuel, que c'est difficile d'être. Et c'est difficile d'être parce que du fait de ce déni de la souffrance, nous cherchons toujours à être ceci ou cela. Et nous sommes ballottés dans ce j'aime, j'aime pas perpétuel qui est absolument épuisant. Et dans la marche, dans l'expérience de la marche, nous pouvons sentir cette souffrance de la séparation où le corps marche juste ici et où il commence à y avoir de l'impatience, on aimerait que ce soit fini, ou bien on est hier, ou on est demain. C'est complexe. La première chose que nous voyons dans l'assise, c'est que la souffrance existe, c'est le réel. C'est essentiel de le conscientiser dans l'assise parce que ce que nous vivons, ce que nous pouvons réaliser et amener en conscience dans l'exercice de la méditation va avoir inconsciemment, il n'y a plus besoin d'amener la même conscience dans le monde extérieur, va avoir inconsciemment des répercussions. Le Bouddha a dit « Je suis venu vous amener la souffrance et la fin de la souffrance. » La souffrance parce que c'est le réel. Et la fin de la souffrance parce que si je comprends ça complètement et qu'il n'y a plus de déni, il y a une détente avec l'expérience et la souffrance devient douce. Parce que ce qui fait souffrir, c'est la cause de nos souffrances, la deuxième vérité, quelle est la cause de nos souffrances. Parce qu'il y a un déni de la première vérité, alors nous sommes attachés. Nous sommes toujours dans le désir. Nous sommes attachés à ce que nous aimons, à ce qui nous fait du bien, à ce que nous croyons juste et bon, et nous détestons ce que nous n'aimons pas, ce qui est non bénéfique, et ce que nous estimons mauvais et faux. Donc en même temps, nous cherchons une totalité et nous passons notre temps à créer le deux. Comment est-ce que nous allons pouvoir être unifiés ou pouvoir nous ouvrir au tout si nous ne voulons qu'une demi-vie? C'est comme si on voulait toujours que la paume de la main, alors qu'une main, eh ben, c'est la paume et le dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il est difficile à comprendre. Comprendre que lorsque tout va bien, s'il n'y a pas une conscience de l'impermanence, et s'il y a une fermeture de la main sur ce tout va bien, sur mon bonheur, je veux mon bonheur, en faisant ce geste-là, je crée le malheur. C'est-à-dire que les choses changent, que le malheur va arriver, et que je vais faire le même geste. Moi et mes problèmes. Et la pensée obsessionnelle, c'est ça. C'est que je ferme la main sur ce que je crois être, sur ce que je pense être, en termes négatifs, et qui n'a rien à voir avec ce que je suis ici et maintenant. Si je viens dans l'expérience ici et maintenant, il y a un corps vivant. Inspire, expire. Peut-être qu'il y a une émotion perturbatrice dans l'instant. Peut-être qu'il y a de l'anxiété. Juste maintenant, j'en ai pas, mais je peux en avoir. Peut-être qu'il y a de l'anxiété. Cette anxiété crée des pensées. Ça, c'est le réel. Anxiété qui crée des pensées. Mais si je fixe ces pensées en termes de « je », c'est mon problème, c'est mon anxiété, parce que machin truc, chose chouette, ou bien moi, que je suis nulle, que j'aurais dû, qu'il aurait dû, que si, que ça, je suis en prison. Et ce que le Bouddha apporte, c'est cette libération de cette prison liée au temps, liée à l'évaluation, liée au bien et au mal, liée à cette croyance que les conditions pourraient m'apporter tout ce à quoi j'aspire. C'est faux. C'est juste pas le réel. La deuxième vérité, c'est que la cause de nos souffrances, c'est ce jeu perpétuel d'attachement à ce que j'aime et de rejet par rapport à ce que je n'aime pas. Au fond, le problème, ce n'est pas tellement qu'il y ait ce jeu, parce que nous continuons, même quand nous méditons, à aimer certaines choses et à ne pas en aimer d'autres. Mais nous le voyons. Il y a une conscience de ce jeu. Et du fait d'amener cet attachement en pleine conscience, nous nous en libérons. parce que la présence, et c'est la troisième vérité, anatta, le fait d'être là avec l'expérience, fait que, ok, il y a ce monde conditionné, imparfait, changeant, quelquefois douloureux, mais il n'y a pas que ça. Et quand je peux amener la pleine conscience sur une expérience douloureuse, ouvrir le cœur, ouvrir l'accueillir, plutôt que de me contracter et d'aller dans le ressentiment ou l'aversion ou la colère ou la dépression, l'abattement, la tristesse, il y a une alternative. Et la présence, si vous êtes juste maintenant là et que vous sentez votre tabouret sous vos fesses, que vous sentez la présence des autres là, et l'espace, et quelqu'un qui vous parle là devant, cette présence, elle est universelle. Ce que nous sommes en train de faire là en étant là, c'est pareil. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Nous observons plusieurs jeux qui sont là. Et qui chacun ont leur petit jeu lié à des conditions où nous sommes nés, si nous sommes un homme ou une femme, si nous sommes grands ou petits, jeunes ou vieux, malades ou en bonne santé, pessimistes ou optimistes, peu importe. Ça, nous pouvons tous contempler ce jeu que chacun d'entre nous met en place. Et la présence, elle a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est comme une étincelle de la conscience, disons du non-moi. Dans le Theravada, on n'emploie pas tellement la conscience cosmique, c'est un mot plutôt tibétain, mais ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Lorsque je suis là, nous pouvons tous sentir cette simplicité. Pas grand-chose, hein? Je fais ça sans le savoir ou je fais ça en le sachant. Simple. Et je peux tout savoir. Pas seulement ça. Je peux savoir quand je vis un moment d'anxiété, quand je vis un moment de colère, quand j'ai des pensées obsessionnelles, quand je suis libre de pensées obsessionnelles, quand il y a l'agitation, quand il y a la somnolence. La conscience a une puissance qui est absolument inimaginable. Et je crois que dans les 30 ans, plus de 30 ans, pendant lesquels j'ai pratiqué la méditation, bientôt 40, c'est ce qui me frappe le plus, c'est à quel point au début, il y a une méconnaissance de la puissance de la présence à l'instant. C'est comme une épée qui coupe à l'intérieur de la souffrance. Parce que nous croyons que le bonheur, c'est une expérience, mais le bonheur n'est pas une expérience. Le vrai bonheur. Le bonheur, c'est cette capacité de comprendre cette compétence de la nature humaine, de comprendre que c'est à l'intérieur de l'ombre que se trouve la lumière. Et que c'est en ouvrant la conscience aux émotions perturbatrices, aux réactivités, à l'anxiété, en ouvrant la conscience et en vérifiant, en réalisant par notre expérience que c'est vrai, que peu à peu, il y a une purification des nuages de l'ignorance et que nous pouvons toucher à l'essence de la nature humaine, qui est, par sa nature, totalement compassionnée, sans peur et sans limite. La quatrième vérité que nous verrons plus tard, c'est le chemin. Il y a peu de monde qui qui réussit à réaliser l'expérience de la libération simplement en entendant cette première vérité de la souffrance qui est offerte par tous les grands mystiques. Quand le Christ meurt sur la croix, c'est mon interprétation, il y en a plusieurs, hein, mais la mienne, c'est que il montre ça. Il montre que la souffrance existe, mais que nous ne sommes pas que ça. Le Bouddha a défini cette deuxième vérité comme l'attachement. Et le plus grand des attachements, c'est l'attachement à moi. Nous sommes attachés à nos plaisirs, nos biens matériels, notre sécurité, notre santé. Nous sommes attachés aux besoins d'existence, au besoin d'être valorisé, vu, reconnu, ou aux besoins de non-existence, la peur d'exister. C'est aussi un attachement. Je ne veux pas être vu. Nous sommes attachés aux 8 aspects mondains. Le Bouddha les a définis comme étant le plaisir et le déplaisir, le gain et la perte, la réussite et l'échec, et la louange et le blâme. Nous sommes attachés à l'un comme à l'autre. Nous sommes attachés à l'échec. Si j'échoue, j'ai échoué, puis je lâche. Ah non, oh là là, j'ai échoué, quelle horreur. Ça colle. Nous sommes attachés à nos souffrances, autant qu'à nos... Nous sommes attachés à ce qui est bénéfique, autant qu'à ce qui n'est pas bénéfique. Donc cette deuxième vérité, elle est réelle, mais juste à travers la première, la deuxième et la troisième vérité, c'est difficile de trouver la libération. Nous avons besoin de quelque chose qui nous porte. Il y en a qui arrivent. Hein. Je donne toujours l'exemple de Saint Paul sur le chemin de Damas. Ça lui est arrivé d'un coup. Ouah. Le chemin, le Bouddha l'a défini simplement en trois aspects. Qu'après, une fois, nous le prendrons et nous le définirons plus clairement. C'est Sila, l'éthique. Il n'y a pas de réussite spirituelle. Vous pouvez méditer pendant 3 ans, jour et nuit. Si l'effort n'est pas porté aussi sur des qualités éthiques dans votre vie, de générosité, d'attention à l'autre et à vous-même, d'effort dans ce sens-là, il n'y aura pas de progrès. Si vous ne faites que de développer l'éthique, il n'y aura pas de progrès non plus. Il est important de développer la méditation, c'est-à-dire de voir à l'intérieur du corps et de l'esprit la réalité de ce dont parle le Bouddha et tous les grands mystiques. Et le troisième aspect, Panya, c'est la compréhension. Si nous n'avons pas des enseignements pour orienter l'exercice dans le sens de la libération, certains arrivent, mais c'est plus difficile. Le chemin est plus long. Donc, nous avons dans la méditation 2 choses importantes. C'est sûr que la méditation touche au psychologique, mais c'est un chemin spirituel, ontologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de vivre le psychologique au niveau archétypal, n'est-ce pas? Rien ne ressemble plus à l'anxiété que l'anxiété. Nous avons tous de l'anxiété, même si nos parents ont été le plus parfaits possible, étonnamment, même si toutes les conditions ont été remplies, il y a de l'anxiété. Il n'y a rien qui ressemble plus à la colère que la colère, au désir que le désir, à la convoitise que la convoitise, au jugement que le jugement. Donc, dans un chemin de méditation, nous n'allons pas chercher pourquoi je juge, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai de l'anxiété, pourquoi j'ai du ressentiment, pourquoi il y a toutes ces émotions non bénéfiques qui émergent de temps en temps. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est le chemin psychologique et il peut être absolument nécessaire. Mais dans la méditation, nous cherchons à rencontrer l'énergie pure. La colère pour la colère. Commencez dans le corps, la colère. C'est pas ma colère. C'est une colère essentielle à rencontrer pour pouvoir la dépasser. Alors qu'au niveau psychologique, on cherche à se libérer de la colère en tant que colère. Vous comprenez la différence? Donc c'est un chemin ésotérique. C'est complètement à l'intérieur. Peu importe que ma colère vienne de ci, de ça ou encore de ça. Peu importe que ce soit mon patron, mon fils. C'est la colère. Et ça, c'est le troisième aspect de la compréhension juste. Travailler cette compréhension. Parce qu'au fond, nous ne pouvons pas changer le monde. Le monde va continuer à être imparfait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. Et au lieu que quand j'ai loupé le coche, parce que nous loupons le coche des fois, on n'est pas parfait, c'est comme ça, ça reste pendant un jour, deux jours, une semaine. Les haines peuvent se véhiculer même de génération en génération. Ça, c'est vraiment la définition de la souffrance. Et nous sommes obsessionnels. Avant d'avoir appris à comprendre ce fonctionnement, on porte cette souffrance comme si on portait 300 kilos sur le dos, au lieu de simplement la poser à côté. Pas difficile, hein? Et alors les choses se vivent dans l'instant, et elles peuvent être lâchées, et c'est la danse de la vie. Quelquefois la peine, quelquefois la joie. Oh, ça se passe. Il n'y a pas cette saisie du moi qui complique tout. Et c'est très important de le faire parce que nous faisons notre part sur cette terre. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Nous offrons ce dont le monde a tellement besoin. Une compréhension autre. J'aimerais finir avec une parole de Confucius. S'il y a la clarté dans le cœur, il y aura la beauté dans le caractère. S'il y a la beauté dans le caractère, il y aura l'harmonie dans nos foyers. S'il y a l'harmonie dans nos foyers, il y aura l'ordre dans les pays. S'il y a l'ordre dans les pays, il y aura la paix dans le monde. Tout commence avec la clarté dans le cœur.